De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
Je suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux, nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, nous aurions bien tenté de voir Alien Crystal Palace d'Ariel Dombal, mais encore fallait-il qu'un cinéma le passe en dehors de la région parisienne. Et seules deux salles ont fait ce courageux choix. On aurait bien aimé aussi voir, eh bien, pourquoi pas, le dernier Clint Eastwood. Ça n'a pas été possible, mais on a vu d'autres films, y compris des films en début d'année dont on va parler maintenant.
Marine. Oui, moi je vais vous parler de In My Room, un film allemand que j'ai découvert au dernier festival de Cannes dans la section Un Dernier Regard, et également dans un autre registre, un drame américain qui s'appelle The Hate U Give.
Et toi, Manu, deux films américains.
Green Book de Peter Farrelly et puis Glass de Shyamalan.
Shyamalan habitué eh bien, des gros box-office, et ça sera l'occasion de jouer à un blind test. Cinq extraits de films du réalisateur américain à écouter, à deviner. Et puis moi, je vous parlerai eh bien, du seul film français de cette émission, L'Ordre des médecins de David Roux, un film qui se déroule à l'hôpital avec un traitement vraiment particulier. C'est Cinérama qui débute.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
La mention d'après une histoire vraie, hein, caution culturelle dissimulant souvent un manque d'inspiration, est mise à défaut dans Green Book, un projet solo mené de front par Peter Farrelly qui a laissé sa moitié quelque part dans les tréfonds de l'humour régressif après Dumb and Dumber 2. Alors retrouver Peter Farrelly s'emparant d'un biopic sur une durée bien déterminée, une tournée musicale en 62, peut surprendre de prime abord. Alors pourtant, le pianiste surdoué Don Charley ne dépareille pas de la galerie des marginaux hétéroclites qui hantent le cinéma des frangins, toujours en but avec la norme, cette entité qui les effraie tant et pourtant qu'ils aimeraient épouser. Alors cette norme, on la retrouve dans une forme classique, assez paresseuse, qui allie une bande-son pop-rock impeccable, reliant une succession de gags, ça je parle pour les films précédents. Alors niveau mise en scène, les Farrelly ont rarement fait preuve d'inventivité, leur talent se trouvant ailleurs dans une écriture souterraine, éloge d'une Americana peuplée d'idiots magnifiques ou de génies incompris. Don Charley est un personnage farélien, un fric à l'intérieur de sa communauté, un noir dandy exhibé chez les blancs qui joue du classique plutôt que du jazz. Alors ce film subtil ne cherche pas tant du côté du plaidoyer antiraciste que du buddy movie, d'une histoire d'amitié où le blanc incarne le beauf inculte, inversant la proposition de Miss Daisy et son chauffeur. Alors l'illustration par une séquence culinaire, d'ailleurs il y en a beaucoup qui montrent un peu les différences culturelles entre les deux personnages.
Comment c'est ? Salé. Avez-vous déjà songé à devenir critique gastronomique ?
Pas vraiment. Ça gagne bien, ce truc-là ?
Je vous disais cela parce que vous avez un merveilleux sens critique pour définir la nourriture. Salé. C'est saisissant, on sent presque le sel.
Eh, ça va, j'ai dit que c'était salé, quoi. Trop salé, c'est tricher. N'importe quel chef peut mettre du sel. Faire un bon plat sans mettre de sel, rien qu'en faisant ressortir les saveurs, ça, c'est la classe. Faut d'abord mettre les bons ingrédients.
Nous ferions mieux d'y aller si nous voulons arriver à Pittsburgh pour le dîner.
Tiens, quand j'étais à l'armée, j'ai connu un gars de Pittsburgh. Sauf qu'il disait « Tétésburg ». Il disait que les habitants avaient de gros tétés.
C'est absurde. Les femmes de Pittsburgh n'ont pas de plus gros seins que les femmes de New York.
On verra quand on y sera, hein.
Pas facile, hein, j'ai l'impression, entre les deux.
Entre les deux, le départ est difficile. Notamment, le personnage de l'italo-américain, il est un peu, on va dire, un petit peu beauf, quoi, sur les bords.
Et puis là, c'était Viggo Mortensen.
Voilà.
On l'entend pas, c'est la VF.
Donc, c'est Tony Lip, qui est un videur de boîte, italo-américain du Bronx, surnommé La Tchatch pour son sens de la répartie. Alors, au chômage, il se rend donc chez un certain docteur, Shirley, pour un emploi de chauffeur. Confiant, il se présente à son domicile, il se retrouve donc confronté face à ses préjugés. Alors non seulement son futur employeur n'est pas docteur, mais pianiste, et plus problématique, pour lui, il est noir. Alors après bien des réticences, Lip finit par accepter, ravalant son petit racisme quotidien, sans se sentir légèrement humilié. Alors d'autant que Shirley ne représente pas le black tel que l'imagine, le blanc moyen, raffiné, cultivé, précieux. Shirley prend la posture de l'aristocrate se protège derrière une érudition et des manières de col blanc pour cacher une grande souffrance, une solitude qui va se briser au contact de Tony Lip. Alors ce dernier aussi va évoluer au contact de Shirley, s'humaniser. chacun va finir par prendre le meilleur de l'autre. Bon, une situation assez classique. Alors, cette échappée belle pourrait être dégoulinante de mièvrerie. Hein, la veine sentimentale du cinéaste est assumée. Elle s'affiche même à cœur ouvert dès les premières minutes, non pas tant avec ses deux pieds nickelés, mais à travers le regard attendrissant que porte la femme de Tony sur son homme. Le rustre Tony, sans filtre et sans gêne, est présenté d'emblée comme un grand enfant à qui il manque quelque chose. L'honnêteté de Peter Farrelly est de ne pas en faire une brute épaisse raciste, mais plutôt un ignare, un gosse en fait, qui au fond ne demande qu'à être éduqué. Shirley, qui, par fierté, s'est entêté à apprendre le classique, à investir les soirées mondaines sudistes, quitte à être perçue comme un phénomène de foire, une sorte d'anomalie au sein d'une société qui l'accepte sur la scène, mais refuse toujours qu'il puisse par exemple aller aux toilettes. En dépit de ses menus privilèges, Shirley a bien conscience d'être, on va dire, une sorte d'esclave de luxe. Alors, en grattant derrière le vernis respectable, Green Book s'avère plus excitant que prévu, ressemblant à une sorte de traversée folle aux confins d'une Amérique raciste et fermée sur elle-même. Cette traversée singulière est représentée par le fameux, d'ailleurs, Green Book dedans. C'est une sorte de guide de voyage pour les gens de couleur, détourné de sa triste fonction initiale, devenant ainsi une sorte de manuel ludique pimentant cette odyssée tendre et ironique. La personnalité complexe de Shirley est habilement croquée par le cinéaste qui ne s'apesantit ni sur son homosexualité, furtivement évoquée, ni sur son alcoolisme dans ce road movie qui cache une tristesse et une mélancolie derrière ses contours, on va dire, de feel-good movie. Et puis bon, les deux acteurs, Viggo Mortensen et Mahershala Ali, sont vraiment remarquables.
Voilà, un film sur les écrans depuis le 23 janvier, ce Green Book. Un peu tout le contraire de In My Room, qui lui est dans les salles depuis début janvier. On se fait un petit rattrapage avec un monde où tous les êtres humains ont disparu.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi ?
Oui, alors In My Room commence comme une comédie sociale acide. Amine, un caméraman trentenaire, n'est pas franchement épanoui dans sa vie. Il est gaffeur. Le film s'ouvre sur une scène de reportage très drôle. Il est loser et parfois même un peu pathétique, hein, comme lorsqu'il ramène chez lui une fille à peine majeure qui est sans doute la fille d'une de ses ex. Mais la donne va changer lorsqu'il se réveille dans une sorte de nouvel ordre mondial, au sens premier du terme. Subitement, les humains semblent avoir tous disparu, laissant derrière eux une civilisation vide. De perdant, Amine devient roi dans ce nouveau royaume où il peut désormais vivre comme bon lui semble. Le spectateur l'abandonne perdu et une courte ellipse plus tard le retrouve transformé. En Robinson Crusoe moderne, Amine a réinventé sa vie et bâti une ferme dans laquelle il subvient à ses propres besoins entouré d'animaux. Ce n'est donc pas la transformation du naufragé en aventurier qui intéresse le réalisateur Ulrich Kohler. De son évolution, de son apprentissage de la vie sauvage, nous ne saurons rien. En revanche, la deuxième partie du film voit l'arrivée d'un nouvel humain rescapé de la catastrophe et qui plus est, cet humain est une femme. Entre ces deux humains vivant quasiment nus dans une nature nourricière, toute ressemblance avec le jardin d'Éden étant purement fortuite, va naître une relation faite d'instincts, d'attentes et de restes de conventions sociales, les faisant s'interroger sur leur nature même. In My Room est une réflexion un peu taiseuse, certes, on n'est pas dans Seul au monde, vous aimez qui savait trouver un bon procédé pour faire parler Tom Hanks et ainsi créer du dialogue indissociable de tout film hollywoodien, une réflexion sur l'humain, sur la solitude et sur son lien à la nature. Alors c'est le premier film distribué en France de Ulrich Kohler, réalisateur allemand, et arrivé sur nos écrans par la grande porte, puisqu'il s'est retrouvé en sélection Un certain regard à Cannes en 2018. Je vais être honnête, j'ai une petite partie du film qui m'a échappé parce que je me suis un peu endormie quelques instants. Entre le moment où le héros chasse un lapin et se baigne dans une rivière. Bon, il faut dire que l'ambiance bucolique et le manque de dialogue prêtent à la sieste. Mais le film est néanmoins réussi, pas inoubliable. J'ai eu un peu de mal à rassembler mes souvenirs à son sujet. Mais il est sincère et réfléchi.
Voilà. Le réalisateur est le compagnon de la réalisatrice de Tony Hardman.
C'est intéressant.
Voilà. C'est tout.
Mais est-ce qu'ils sont connus à Cannes, du coup, tous les deux, ou pas?
En tout cas, tous les deux, ils vont pouvoir accumuler des succès, visiblement. C'était In My Room. Maintenant, on vous emmène à l'hôpital.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Et croyez-moi, ce ne sera pas long.
Voilà un film qui, avec un titre pareil, pourrait largement induire en erreur, car si le premier long métrage de David Roux s'intitule « L'ordre des médecins », il ne sera aucunement question ici d'un médecin qui va passer en conseil de discipline ou qui exerce illégalement la profession médicale. Non, mais « L'ordre des médecins » fait tout de même partie de cette longue liste de films qui se déroulent dans l'univers hospitalier. Nous avons d'ailleurs depuis peu un spécialiste des films sur les médecins, la personne de Thomas Lilti, à qui l'on doit dernièrement première année médecin de campagne et surtout Hippocrate qui est maintenant maintenant décliné en série. Le film de Thomas Roux, lui, se déroule quasi exclusivement dans un grand hôpital parisien. Nous suit Simon, 37 ans, impeccable Jérémy Régnier, un pneumologue qui exerce depuis de nombreuses années. Alors l'homme que l'on voit un bref moment dans l'intimité d'un chez-soi dépersonnalisé semble vivre pour l'hôpital, pour son métier. Dans son service, il est respecté, hein, que ce soit par ses collègues ou ses patients avec qui il tient une certaine distance. La mort, il la côtoie tous les jours, il la jauge, il l'écarte, il l'accepte. La scène d'ouverture est éloquente. En discussion avec son équipe, eh bien, il s'interroge sur la nécessité de prolonger la vie d'une patiente plus que de raison, estimant que tout a été fait. Savoir, éthique, expérience, voilà un médecin eh bien, qui en impose sans excès. Mais tout bascule quand à quelques étages de là, sa mère est admise. Celle-ci souffre d'une récidive de cancer.
Oui, papa. Elle est où, là?
Non, non, mais on te met n'importe quoi, SOS médecin.
Non, tu l'amènes ici.
Je suis contente de te voir.
Ah. Alors, ta mère est de retour, il paraît? Bon, alors qu'il est, il n'y a rien à faire de plus, hein, surtout dans l'état où elle était ces jours-ci.
Elle trouve que tu es un bon médecin.
Bon, elle a dit ça pour te faire plaisir.
Ben, ça marchait.
Le médecin que l'on a vu distant, assuré, va alors devoir jouer une autre partition, d'autant qu'il est observé par sa sœur, un peu moins par son père, et par une interne hein, qui n'attend pas de lui que des conseils professionnels. De la description d'un service avec ses admissions, ses diagnostics, ses pronostics, son humeur, sa hiérarchie, sa pesanteur, mais aussi sa légèreté, donc on n'est jamais dans l'urgence avec Clunet, eh bien nous passons à un film plus intimiste qui épouse les tonalités dramatiques. Mais David Roux, le réalisateur, qui s'inspire en fait d'une histoire pour ainsi dire vraie, car il est le fils d'un médecin avec un frère pneumologue et puis bien il a perdu sa mère qui est morte après bien de longs mois d'hospitalisation. Donc bon, il s'inspire quand même bien de ce qu'il a vécu. Eh bien, le réalisateur entre maintenant dans la précision du dérèglement, car le pneumologue va devoir s'adapter à une situation qu'il n'avait jamais vraiment envisagée. Au diable la première séquence hein, où on le voit condamner une patiente, le praticien d'abord dans la tente va devoir tenter eh bien, de prendre en charge sa mère. Il est alors difficile de faire se côtoyer la posture de fils avec celle du médecin.
Salut.
Salut, tu viens en civil maintenant?
Faudrait que je fasse faire un scan.
Et tu la sors d'où cette petite dame alors?
C'est ma mère.
Ah, pardon.
Le foie est quand même assez gros. Hein. Le péritoine est bien intégré.
C'est bon, il connaît, il est médecin.
Je sais pas combien de temps ça va durer. Elle va pas se rétablir. Faut pas faire trop de bruit, d'accord? Parce que normalement, on n'a pas le droit d'être ici.
Tu seras où quand tu seras morte?
Je serai dans vos petites têtes.
Avec une mise en scène qui ne verse jamais dans le spectaculaire, on s'en doute avec ce qu'on entend, où le morbide, David Roux nous montre un hôpital où l'on attend la famille, le passage du médecin. Si la mort y est présente, la mère de Simon, bien qu'elle soit imparable hein, dans son cas, la mort, elle tente de la rendre plus douce, voire parfois joyeuse. Dans cette chambre où elle reste allongée, la mère, incarnée par Marthe Keller, reçoit ses amis de la chorale qui chantent, ses petits-enfants qui dessinent, son mari qui perd au Scrabble, ses enfants qui ont ces petits gestes pétris de pudeur. Nul pathos ne vient assombrir cette vision de l'hôpital où une famille s'apprête à abandonner l'un des siens. Ce lieu que nous connaissons tous est aussi exploré de manière alors quasi fantastique par David Roux, avec ses couloirs, ses sous-sols parsemés de tuyaux baignant dans une lumière lugubre. C'est dans ce lieu où les soignants, loin de la surface, loin du tumulte des visites, des soins et des bips, eh bien viennent se ressourcer de manière assez inattendue. L'Ordre des médecins, premier film de David Roux, est une réussite, loin du rythme effréné des urgences, avec ses bips et ses électrochocs et puis ses médecins surhumains. Hein, tels qu'ils sont montrés parfois dans les fictions. Il faut, et alors là, le réalisateur fait régner la pulsation de l'intime qui résonne avec celle de l'impuissance et de l'acceptation.
Hello, cote-nous, elle est maman. J'en sais rien. Viens de moi la main. Pour aller où? J'en sais rien. Viens. Papa, il a une grosse voix. Qu'on saura parler comme ça. J'en sais.
Colette Magny, qu'on entend eh bien, dans ce film de David Roux, c'était Hello Cotton. Allez, c'est le gros morceau de Cinérama maintenant. C'est le dernier film de Monsieur Chalaman.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations?
Cinérama.
On va regarder ça.
Je travaille sur une forme particulière de mégalomanie. Je suis spécialisée dans le traitement des patients qui se prennent pour des super-héros.
Alors l'épilogue de Split annonçait le retour de Bruce Willis 18 ans après Incassable. Une occasion pour Shyamalan de renouer avec un de ses plus grands succès. Mais que faire ? Comment s'en sortir sans tomber dans le piège de la redite de l'opportunisme ? Glass démarre de manière assez laborieuse avec une exposition pathode rappelant le super pouvoir de Bruce Willis sous le regard toujours admiratif de son fils qui a bien grandi et toujours interprété par le même comédien. Un rappel des faits destiné aux néophytes, à tous ceux qui n'auraient pas vu Incassable. Alors, David Dune s'est trouvé un ennemi de taille à la mesure de son ambition, la bête, l'une des 23 personnalités de Kevin Crumb, personnage emblématique de Split, le précédent film du cinéaste. Lors d'un affrontement inévitable, ils se sont neutralisés par les autorités et envoyés dans un hôpital psychiatrique où végète Elijah Price, alias Glass, souffrant du syndrome des os de verre, ayant par le passé révélé la véritable nature de David Dune. Le docteur Ellie Staple va tenter de les convaincre qu'ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être, à savoir des super-héros, mais simplement des individus dérangés, souffrant d'un mal commun, d'un traumatisme ayant déréglé leur psychisme.
Mes os se brisent facilement. J'ai eu 94 fractures dans ma vie.
Mais vous avez un QI exceptionnel.
Ce n'est pas un dessin animé, c'est le monde réel.
J'y crois pas.
Et pourtant, certains d'entre nous ne meurent pas sous les balles. Certains d'entre nous sont capables de tordre l'acier. J'ai hâte que le monde sache enfin que nous existons.
Comment faut-il vous appeler, monsieur ?
Prénom, Mister. Nom, Glass.
Alors, dans une configuration expérimentale, le docteur va interroger les trois individus dans une pièce aux teintes d'ailleurs étrangement roses. Le dispositif, s'éloignant de toute forme de réalisme, s'impose comme un tournant pour Glass, qui devient alors une œuvre passionnante, une réflexion pointue sur le désir d'une société d'écraser le pouvoir de l'imaginaire, de rendre à néant l'élan créatif des artistes. Le cinéaste signe sans doute son film le plus personnel, le plus riche à multiples interprétations, s'identifiant complètement à travers les trois figures des super-héros qui incarnent, chacun à leur manière, la singularité parfois encombrante que peut incarner un artiste hors norme. Alors on peut prendre le film pour une monstrueuse démonstration autour de l'ego démesuré du cinéaste, mais ce serait envisager le film sous un angle partial, trop étriqué pour rendre la mesure de l'universalité du propos qui dépasse le cadre de l'introspection. Alors Shalaman dresse un portrait cinglant d'une Amérique conservatrice qui tient avant tout à maintenir un ordre, à réfuter la possibilité qu'il y ait des êtres exceptionnels qui pourraient changer le système. Cette lecture politique que certains pourraient prendre pour fantaisiste est pourtant le nerf de glace qui avance de moins en moins masqué vers son but ultime, une finalité qui risque de décevoir les fans de films de super-héros, mais qui est d'une cohérence absolue. Le dernier acte déjoue les attentes du grand affrontement tant attendu en haut d'une tour, et c'est tant mieux. Le cinéma d'action d'ailleurs n'intéresse absolument pas le cinéaste, les rares séquences faisant intervenir des combats étant expédiées voire bâclées. Il filme davantage la fin d'une civilisation, la vulnérabilité de super-héros écrasés, dont la seule revanche passe par le génie intellectuel de l'homme de verre, qui devient une sorte d'architecte, de metteur en scène à l'intérieur du film, dont le but est de délivrer la vérité au monde entier. Alors une vérité tardive qui sonne un peu comme le chant du cygne dans cette œuvre mélancolique qui donne aussi l'occasion de voir l'intelligence avec laquelle le cinéaste dirige ses comédiens. Alors le film peut se lire, alors je dirais, comme une métaphore d'un artisan roublard qui tente de s'imposer au sein d'une industrie qui essaye de le tuer dans l'œuf l'imaginaire des artistes. Et pour s'en sortir, il faut mentir, détourner l'attention, comme Glass qui va le faire pour imposer sa vision. Alors Bruce Willis, taiseux et plus monolithique que jamais, porte en lui une tristesse assez impressionnante face à un James McAvoy encore plus impressionnant que dans Split. C'est-à-dire démultipliant les personnalités dans un vertigineux exercice de haute voltige, ils incarnent à l'extrémité, je dirais, les deux facettes de ce qu'on attend d'un comédien. Shyamalan filme aussi à travers ses acteurs un peu la décrépitude d'un cinéma hollywoodien en perdition face au tout numérique où les comédiens, ces super-héros de l'écran, vont progressivement disparaître dans les grosses machineries. Alors je trouve que c'est d'une richesse assez inépuisable, un film à la fois que je dirais théorique et ludique. Glass est sans doute, pour moi, le grand film américain de ce début d'année. Un film vraiment très très complexe derrière, ces atours de...
Un peu simpliste.
Un peu simpliste, mais qu'il l'est pas du tout. C'est un très grand film.
Eh bien, c'est plutôt bien. On va se mettre d'accord. Hein. Par contre, moi, je vais l'appeler Shyamalan. Voilà. Notre réalisateur, parce qu'on n'est jamais d'accord. Shyamalaman.
Est-ce qu'il y a deux A, est-ce qu'il y a trois Y?
Trop compliqué. Et on va jouer donc à un blind test. 5 extraits à écouter. Alors là, c'est... Bon, on fait passer ça comme un jeu, mais c'est plus pour se remémorer quand même des films qui, pour la plupart du temps, ont dépassé le million de spectateurs. Et celui-ci a même dépassé les 7 millions, c'est pour dire.
Je vois des gens qui sont morts.
En rêve, tu veux dire? Quand tu es éveillé. Tu vois des morts dans des tombes, des cercueils.
Non, ils vont et ils viennent comme n'importe qui. Ils ne se voient pas entre eux. Ils ne voient que ce qu'ils ont envie de voir. Ils ne savent pas qu'ils sont morts.
Et tu en vois souvent?
Tout le temps.
C'est ce film qui a fait connaître Shyamalan.
Moi, c'est le film qui m'a fait le plus peur de toute ma vie. Mais j'avais 13 ans quand je l'ai vu aussi. C'est pour ça.
Et c'est...
Ah oui, quand même.
Tu avais 13 ans en 99, donc.
Oui.
Et c'est 6e.
Sens.
Voilà. 7,8 millions d'entrées en France, il en a fait plein à travers le monde. Deuxième extrait.
La mort du petit Daniel Nicholson, de maladie et d'autres événements pèsent sur ma conscience. Je demande la permission de traverser les bois interdits pour me rendre à la ville la plus proche. Je m'y procurerai de nouveaux remèdes et je reviendrai. En ce qui concerne ceux dont on ne parle pas, je suis sûr qu'ils me laisseront passer. Les créatures ressentent les émotions et la peur. Elles verront que j'ai de bonnes intentions et que je n'ai peur de rien. Fin.
Ceux dont on ne parle pas, c'est ceux qui ne font pas partie du...
Village.
Voilà. Le Village, film de 2004 qui a réuni 2,4 millions de spectateurs en France. Et là, c'était la voix française de Joaquin Phoenix qui lui rend pas forcément un grand hommage. Troisième extrait.
Je dirais que je m'adresse à Dennis. Je me réjouis que nous puissions enfin faire connaissance. Je l'ai deviné parce que vous avez rectifié deux fois la position de la coupelle de chocolat depuis que vous êtes ici. Je constate que vous avez des tocs.
Je vois, d'accord, je vois. C'est intelligent. C'est intelligent, mais je ne suis pas Denise.
Cela fait pas mal de temps, maintenant, que Patricia et vous avez été bannis de la lumière. La principale raison de ce bannissement a été vos croyances.
Patricia et Denise sont des personnes instables. Je ne suis pas Denise.
Maintenant, vous avez le contrôle, tous les deux?
Croyez-moi, s'il vous plaît, je suis Paris.
Donc c'est trouvé, Manu.
Split.
Oui, film dont il est question dans Glass, en tout cas le personnage avec ses 23 personnalités. Et donc film sorti en 2017 et qui a réuni 1,7 million de spectateurs. Encore un extrait.
Et si c'était les plantes? Leur groupe était plus grand que le nôtre. Ça n'a pas arrêté de s'amplifier. C'est déclenché par des populations de plus en plus petites. Elles réagissent aux stimuli humains. Peut-être bien qu'on agresse les plantes.
N'importe quoi, ce type était dingue, il faut qu'on aille les sauver.
Ils sont déjà morts. Et si elles nous prenaient pour cible parce qu'on les menace? Cette partie du champ n'a peut-être pas encore été activée. Il y a peut-être une espèce de capteur qui déclenche l'émission de la toxine quand les humains sont trop nombreux. Le danger, c'est le vent.
Alors des scènes un peu terrifiantes ou même drôles hein, de suicide.
Phénomène, donc.
Et donc, c'est les plantes qui décident de s'attaquer aux hommes. 1,3 million d'entrées. Et on remarque que ça baisse hein, depuis le début, quand même, hein, toutes les entrées. Et ce sera le cas aussi avec cet extrait.
Dites-moi ce qui se passera quand l'aigle vous ramènera.
Je n'en sais que ce qu'ont dit les autres. Ils nous disent que le monde se mettra d'aplomb et révélera qu'on est sur le bon chemin. Et que l'univers nous adressera des signes. Les tardoutiques ne sont pas encore là. Je continue à sentir la présence du Skrunt de tout près.
Il vous faut croire que tout ça est porteur de sens d'une façon ou d'une autre.
J'ignore pourquoi je suis la maîtresse Narf. Je n'ai rien de spécial. Je suis maladroite, ils se moquent de moi. J'ignore comment on guide.
Ça a été trouvé, Marine.
Ouais, c'était la jeune fille de l'eau, c'était pas terrible, ça.
Eh ben, c'était tellement pas terrible que c'était en dessous des 1 million pour un réalisateur de ce calibre. C'était pas forcément la bonne nouvelle pour les studios. 442 000 entrées. Mais c'est pas le film qui a réuni le moins de spectateurs. Il y a eu un autre film en dessous du million, c'est The Visit, avec 369 000 entrées en France.
Qui était pas
oui,
mal.
Mais c'était un petit film, donc oui. On peut pas dire que c'était un four par rapport à...
Oui, qui avait un mini-budget aussi.
Par rapport à La jeune fille de l'eau, effectivement, où le budget était plus conséquent. Voilà, ainsi s'achève ce blind test sur Shyamalan. Et on termine cette émission avec un film dans les salles depuis le 23 janvier et qui va parler des émeutes.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Revenons maintenant sur l'affaire du meurtre d'un adolescent noir de 17 ans par un officier de police blanc samedi soir.
Star est une lycéenne noire dans un lycée de blancs élevée par un père qui a été affilié aux Black Panthers et qui a élevé donc ses trois enfants dans l'idée que leur existence serait toujours un combat en raison de leur couleur de peau. Bien qu'elle étudie dans un lycée huppé pour échapper aux tentations et aux dérives du ghetto, Star et sa famille vivent toujours à Garden Heights, ce quartier noir et violent où les dealers font la loi. Star ne se sent à sa place nulle part et lui semble interpréter un rôle lorsqu'elle est avec ses amies blanches et ne se reconnaît pas totalement dans la culture noire que revendiquent les gens de son quartier. Un soir, elle retrouve son ancien meilleur ami, mais les retrouvailles sont de courte durée, puisqu'il se fait abattre sous ses yeux par un policier blanc.
Je crois qu'il parlait de nous.
Qui ça, nous ?
Les noirs comme nous. Pauvres, opprimés, tous les laissés pour compte.
T'as tout compris. Tupac voulait nous éduquer, nous dire que le système a été conçu contre nous. Pourquoi tu crois qu'on a toutes ces bandes de dealers dans le quartier ?
Les gens ont besoin d'argent.
Ouais. Et on trouve pas de vrai boulot par ici. Du coup, ils se font tous savoir.
The Hate U Give est donc une chanson du rappeur Tupac dans laquelle il explique que la haine avec laquelle on élève ses enfants, sous-entendu dans les quartiers pauvres et ghettoisés, se retourne contre nous par la suite. Au lieu d'aborder la complexité des rapports blanc-noir aux États-Unis d'un point de vue historique, chose qui a été beaucoup faite, le film choisit de placer son action de nos jours et de faire un état des lieux contemporain de la situation. Et en ce sens, il s'avère assez exhaustif, hein, entre le blanc qui s'approprie les codes de la culture noire pour avoir l'air cool, la copine blanche qui voudrait lutter pour un monde meilleur mais qui, de par sa couleur de peau, est bien incapable de saisir les enjeux de cette lutte, le père noir qui finalement retourne le racisme dont il a été victime contre les blancs. Bref, nous avons le parfait petit lexique illustré de ce qu'il faut et de ce qu'il ne faut pas faire lorsque vous êtes blanc ou noir en 2019. Sauf que le film manque réellement de saveur, il ne prend pas position, finalement il ne fait preuve d'aucune radicalité, chacun des personnages noirs ou blancs étant en proie à de gentilles prises de conscience. Alors si vous n'êtes pas justement un minimum conscientisé au sujet des rapports blanc-noir, le film vous ouvrira sans doute les yeux car il est pensé pour être très pédagogique, voire très démago surtout. Les scènes de manifestation sont assez poignantes, hein, certes, mais je pense que la situation actuelle en France, et notamment les dérives et les violences policières, impactent notre vision du film sur ce point-là. La mise en scène de Georges Tillman est efficace, hein, pas hyper inspirée, mais plutôt proprette. Mais il se dégage une telle impression de politiquement correct avec ce scénario pensé pour ne choquer personne, et surtout sa fin pleine de bons sentiments, pas crédibles, une seule seconde, et surligné ad nauseam, il se dégage une telle impression de politiquement correct que le dernier Spike Lee passe à côté pour un véritable pamphlet. Et puis, lorsque l'on parle d'identité noire et de fierté afro-américaine, n'est-ce pas un peu contradictoire finalement d'embaucher pour les rôles principaux deux comédiennes noires, notamment la jeune Amanda Stenberg, mais à la peau très claire, probablement blanchie et au nez refait. Moi, c'est un truc qui m'a un peu gênée, je trouve ça assez dommage finalement, de ne pas justement mettre en avant des femmes afro-américaines qui ne se soient pas faites refaire pour ressembler à des blanches, quoi.
En même temps, si elle est dans un lycée avec des blancs, peut-être qu'il y a aussi cette idée qu'elle...
Alors sa mère entièrement refaite, qui est censée venir d'un quartier pauvre, on y croit moyen quand même, hein, avec la peau blanchie comme Beyoncé, ça tient pas debout, en fait.
Mais si j'ai bien compris, ils sont passés dans un autre niveau social, non ?
C'est bien ça ? Non, mais bon. Ils veulent offrir à leurs enfants en fait les chances, ils veulent mettre toutes les chances de leur côté. Mais
donc c'est l'école.
Mais ils restent quand même relativement pauvres.
Donc The Hate U Give.
The Hate U Give, oui.
Voilà, ouais. C'est le 23 janvier dans les salles de cinéma.
C'est fini ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, c'est pas possible.
Si, je vous assure.
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule !
La semaine prochaine, on aura sans doute vu le film de Clint Eastwood. Et puis, on parlera du premier Miyazaki qui est de retour dans les salles. À la semaine prochaine.